cruzamento da Europa.
Раскруча Европей.
Ставродромы της Европис.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Après 16 ans à la tête de l'Allemagne, Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir. Elle ne sera pas candidate aux élections de septembre prochain pour un cinquième mandat. Elle aura égalé la longévité d'Helmut Kohl, mais à l'inverse du chancelier de la réunification, elle partira avec une étonnante cote de popularité. Peu charismatique, hyper pragmatique, lente lorsqu'il s'agit de prendre une décision, la chancelière a su s'imposer en Allemagne, en Europe et sur la scène internationale. Ses origines ont marqué son exercice du pouvoir. Angela Merkel est une protestante venue de l'Est, imprégnée de modestie et d'une morale rigoureuse qui lui a fait gagner le cœur des Allemands qui l'ont baptisée Mutti. Il aura fallu toutefois attendre les deux dernières années de son dernier mandat pour qu'elle se révèle en une européenne convaincue en dérogeant aux secrets saints d'hommes allemands d'un emprunt européen créateur d'une dette commune aux 27. Paradoxalement, Angela Merkel part en laissant son parti affaibli. Si une femme lui succède, eh bien elle ne viendra pas de la CDU, mais des Verts, qui ont le vent en poupe dans les sondages. Quelle trace laissera-t-elle dans l'histoire, celle d'une gestionnaire de crise au bénéfice de l'économie allemande, ou au contraire, celle d'une grande européenne? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Marion von Rentengem.
Bonjour.
Voilà un nom extraordinairement difficile à prononcer. Marion von Rentengem. Vous êtes journaliste, écrivaine. Votre dernier livre, C'était Merkel, vient de paraître aux éditions des Arènes, en quatre couleurs, hein, en quatre couleurs flashy. On peut l'avoir en bleu, en vert, en jaune, je crois,
rose et orange.
Alors j'ai dit, c'est évidemment une biographie très complète, je dirais une biographie amoureuse, en tout cas empreinte de tendresse.
C'est vrai, je ne cache pas mon admiration et ma sympathie et mon empathie pour la chancelière allemande, ce qui ne m'empêche pas d'être critique. Je ne pense pas être naïve.
Bien évidemment, la journaliste reste en éveil.
Voilà, il reste de la journaliste, même si c'est vrai que chez moi, l'admiration l'emporte. D'abord, on est d'autant plus critique qu'on aime, donc je pense que je suis sévère, mais en gardant cette admiration profonde. Personne n'est parfait d'abord, donc elle a fait des erreurs, elle a fait même des fautes. Profondément, ce qui me fascine d'abord chez elle, c'est ce destin totalement unique au monde, totalement admirable. Quelqu'un qui vient, une grande dirigeante, qui à la tête de la première puissance économique européenne, qui vient d'un pays qui n'existe plus. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres exemples.
C'est une
sur
histoire.
Terre.
C'est une grande histoire. Jens Althoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll. La Fondation Heinrich Böll, c'est une fondation très très proche des Verts, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, proche des Verts, pas lié, mais proche des Verts, oui.
Et vous êtes en ligne d'Heidelberg, en Allemagne. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour Daniel.
Vous êtes évidemment le correspondant de RFI en Allemagne, et vous êtes en ligne de Berlin. Niklas Mönch, bonjour.
Bonjour.
Étudiant en journalisme en France, vraiment vous êtes totalement biculturel et vous nous parlerez évidemment du regard que vous portez sur Angela Merkel. Et puis comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International ce dimanche avec Sacha Michel. Alors, Marion von Rentengem, j'ai lu votre livre, non pas comme on lit une biographie, mais plutôt comme un roman. Le roman de la vie d'une physicienne de l'Allemagne de l'Est qui s'engage en politique au lendemain de la chute du mur de Berlin. On est au tout début des années 90. Alors, Angela Merkel n'est pas un personnage flamboyant, pas du tout, hein. C'est plutôt tout le contraire. Elle n'a pas de charisme, pas vraiment. Elle est austère et pourtant elle vous fascine.
C'est vrai, et ça me fait très plaisir que vous l'ayez lu comme un roman, parce que c'est vraiment le but, et c'est comme ça que je vois Angela Merkel, c'est comme un personnage romanesque. Pour moi, ce qui me fascine chez elle, je le disais, c'est sa destinée, c'est comment, au fond, une petite physicienne de province, c'est comme ça qu'on dirait en France, à la Flaubert, hein, est devenue la dirigeante d'un des pays les plus puissants du monde. Et donc, elle est devenue même, je dirais, comme vous dites, en plus, elle était sans charisme, sans histoire particulière, très ordinaire, et elle est devenue une sorte d'icône pop, au sens où elle est, pour moi, elle est entrée comme une chanson pop dans nos vies. Elle fait partie maintenant de nos paysages, son visage est familier. Il y a d'ailleurs en Allemagne, il y a des mugs, des assiettes,
oui, des machins.
faire des moules à gâteau. J'ai vu même quelqu'un m'a offert un moule à gâteau en forme d'Angela Merkel. Donc elle est devenue une forme d'icône. Et cette transformation radicale est fascinante parce qu'elle vient encore une fois d'Allemagne de l'Est. Vous le disiez, c'est pas un personnage du tout flamboyant. D'ailleurs, elle est restée non flamboyante. Ça aussi, c'est un des mystères de sa personnalité et de sa manière de gouverner, qui fait sa particularité au pouvoir, c'est que ce n'est pas du tout quelqu'un qui manie, qui sait embarquer les foules avec des grands discours et qui est dépourvu de tout enthousiasme. Elle est incroyablement ennuyeuse quand elle prend la parole en public. Elle est une espèce de voix monotone. Et donc, son intelligence s'exerce ailleurs et sa puissance et son habileté s'exercent ailleurs, c'est-à-dire dans sa manière d'être extraordinairement à l'écoute, dans sa manière de savoir faire des compromis, de négocier, et puis avec beaucoup de machiavélisme, parce que quand même, son histoire politique est faite de coups extrêmement retors.
Voilà, comme ça, on la croirait très gentille, faut se méfier. Alors, on a dit qu'elle venait de l'Est, qu'elle était scientifique, elle était physicienne de grand talent. Elle vient aussi du nord de la Baltique. Alors, qu'est-ce que ça implique, tout ça? Elle vient de l'Est, elle est une scientifique, puis elle vient du nord de la Baltique.
C'est ça, parce que souvent, justement, c'est ça qui fait la richesse de ce personnage romanesque, comme je le dis et comme vous le dites, c'est qu'on ne peut pas la réduire très souvent, on dit, voilà, la chancelière de l'Est. Non, ce qui détermine Angela Merkel, ça n'est pas seulement ni la provenance, même si cette provenance est en soi très admirable au sens extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de dirigeants aujourd'hui, de grands dirigeants des démocraties occidentales qui viennent d'une dictature communiste. Donc c'est vrai que le fait de venir d'Allemagne de l'Est dit beaucoup de choses de sa personne. Mais elle n'est pas seulement une femme d'Allemagne de l'Est, elle est en effet une femme du Nord, ce qui donne beaucoup aussi à sa réserve. C'est quelqu'un qui est très lié à la Baltique. D'abord, sa circonscription est au bord de la Baltique. Elle-même a été élevée dans le Brandebourg, qui est quand même une partie nord de l'Allemagne. Et puis surtout, ce qui est quand même incroyablement fort dans sa personnalité, dans sa construction mentale et morale, c'est qu'elle est fille de pasteur. Elle est fille de pasteur, élevée dans des valeurs protestantes très fortes qui vraiment marquent et expliquent beaucoup de choses et beaucoup de ses décisions politiques. Et elle était une fille de pasteur un peu particulière, là encore, parce que c'était une famille qui, au lieu d'aller d'ouest en est, comme c'était le cas de tout le monde au moment où s'est érigé le rideau de fer et où la dictature communiste s'est mise en place, c'était une famille, au contraire, née à l'ouest. Elle-même est née à Hambourg. Et le père a décidé, après la Deuxième Guerre mondiale, donc au moment où dans les années 50, au moment où le communisme commençait vraiment à se raidir en Allemagne de l'Est, il a décidé de faire le voyage inverse, c'est-à-dire de quitter l'Ouest pour aller s'installer à l'Est, parce que un poste d'enseignant à des séminaristes lui avait été offert, mais aussi par conviction idéologique. C'était quelqu'un qui était en sympathie profonde avec ce nouveau régime socialiste, cette nouvelle république socialiste qui était en train de s'installer. Donc c'est un geste fort de sa part. Moi, ma petite idée, c'est qu'il y a aussi un mystère familial. C'est que le père d'Angela Merkel, était policier à Berlin dans les années 30. Alors, je ne veux pas non plus faire d'hypothèses au-delà et de faire des déductions hâtives, mais malgré tout, être policier à Berlin dans les années 30, c'est-à-dire en plein dans la montée du nazisme, sans que personne de la famille ne soit capable d'expliquer exactement ce qu'il faisait et tout le monde botte en touche en disant « on ne savait pas », je pense, sans exagérer, pouvoir déduire qu'il y a un mystère autour de ce grand-père. Et c'est vrai que du coup, si je fais de la psychologie de bas étage, je pense que ce trajet à l'envers extrêmement étrange de ce père pasteur qui décide de quitter le pays de la liberté, l'Allemagne de l'Ouest, pour aller vers la dictature, pourrait avoir un lien avec quelque chose comme un péché à expier, comme on dit chez les chrétiens, avec sans doute peut-être une faute familiale du côté du nazisme. Mais je n'ai aucun élément et personne n'en a. Donc c'est simplement une ombre mystérieuse qui plane sur la famille.
Une hypothèse. Pascal Thibault, elle arrive sur la scène politique allemande, d'abord sur la scène politique des derniers moments de la RDA, de l'Allemagne de l'Est, presque par hasard.
Oui, effectivement, elle est un petit peu découverte dans cette période très troublée où tout devient possible et où tout le monde peut devenir n'importe qui, entre guillemets, ou en tout cas accéder à des responsabilités. Elle est découverte parce qu'elle va s'engager au sein d'un nouveau mouvement né de ces bouleversements de l'automne 89 qui s'appelle le Renouveau démocratique, qui ensuite deviendra membre de la CDU. Et son efficacité au sein de ce mouvement va faire qu'elle va être proposée, présentée pour devenir la vice-porte-parole du dernier gouvernement est-allemand, celui qui est élu après les premières élections libres de mars 1990. Elle devient donc vice-porte-parole de ce gouvernement de Lothar de Maizière, ce qui la propulse sur l'avant-scène. On lui fait comprendre que peut-être il faut peut-être faire un petit tour dans quelques magasins de mode pour s'acheter des fringues qui ressemblent à quelque chose. Et puis donc elle va accompagner ce premier ministre d'un pays moribond dans des voyages officiels. Et donc elle va aussi bien entendu avoir à rencontrer des responsables ouest-allemands durant ces quelques mois où on va négocier la réunification et le traité qui va la permettre. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Helmut Kohl, qui la découvre, estime que c'est un talent qu'il faut soutenir, mais aussi parce que bien il lui faut, après la réunification, évidemment des membres du gouvernement qui soient issus de cette RDA. Donc elle est de l'Est, elle est une femme, elle est protestante, ce qui n'était pas extrêmement répandu dans la CDU d'Helmut Kohl. Donc plusieurs critères qui font qu'elle devient ministre de la famille dès la réunification et un peu plus tard de l'environnement.
Jens Althoff, quand elle passe de l'Est à l'Ouest et qu'on la découvre, elle est à la fois une ovni, hein, pour reprendre le titre d'un précédent livre de Marion von Rentinger, et elle est en même temps l'alibi d'Helmut Kohl. L'alibi venue de l'Est et l'alibi femme.
Oui, absolument. Et il ne faut pas oublier qu'au début, il y avait quand même beaucoup des gens aussi dans les médias, des experts qui se moquaient d'elle un petit peu. Elle était appelée Kohl-Mädchen, c'est-à-dire un peu la fille de Helmut Kohl, qui justement, on disait un peu, oui, elle vient de l'Allemagne de l'Est, en plus elle est femme et tout, donc c'est pour ça qu'elle est dans cette position. Ce qui, dès le début, je crois, c'était aussi quelque chose que beaucoup de gens ont souvent sous-estimé, Angela Merkel. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, quand même, des dirigeants au sein des conservateurs qui vont payer le prix pour avoir sous-estimé Angela Merkel plus tard. Donc ça, oui, il y avait justement ça au début. Et il faut aussi dire que quand même, sans quelques événements d'extérieur, par exemple le grand scandale autour du financement clandestin des conservateurs dans l'année 2000, par exemple, là, c'était quand même un moment où elle avait une vraie chance pour faire une carrière aussi et devenir même présidente du parti, parce que normalement, elle a tout pour pas faire une grande carrière, et justement ce moment-là, au sein des conservateurs, parce que c'est une femme qui est divorcée, qui pour la deuxième fois mariée, une femme qui n'a pas d'enfant, donc elle a vraiment tous les critères qui, normalement, sont compliqués pour faire une carrière. Hein. Vous voyez tous les autres qui ont fait des grandes carrières, si vous voyez une von der Leyen, une femme mariée,
bien sûr,
toujours avec beaucoup d'enfants, donc elle a normalement tous les critères pour pas du tout faire une telle carrière, et elle a quand même fait, parce que c'est grâce à ses qualités, le fait que beaucoup ont sous-estimé Angela Merkel, mais aussi quand même par quelques événements extérieurs qui ont été aussi favorables.
Évidemment, qui l'ont aidé.
Su vraiment prendre ces occasions.
Marion von Rentinger, elle est à la fois une femme au milieu d'hommes, notamment des barons de la CDU, les tenants, les caciques de la CDU, c'est un peu des durs à cuire, hein, c'est pas forcément des rigolos. Helmut Kohl, c'est pas forcément rigolo. Lorsqu'il, le 22 décembre 1999, il découvre dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung une tribune d'Angela Merkel, il n'en revient pas.
Non, ça, tout le monde était absolument estomaqué, et elle a été incroyable, parce que cette tribune à laquelle vous faites allusion, elle n'en a parlé strictement à personne. J'ai été interviewée récemment une de ses meilleures amies, Annette Chavannes, qui a été ministre, qui n'était pas au courant. Eva Christiansen, qui est une des très proches collaboratrices, n'était pas au courant. Je pense que Beate Baumann, son assistante la plus directe, la plus proche, était peut-être au courant, mais Peter Altmaier, qui était aussi assez proche d'Angela Merkel à l'époque, ne le savait pas. Donc elle a vraiment fait ça dans son coin, elle a mijoté.
Qu'est-ce qu'on y lit dans cette
tribune ? On y lit qu'il est temps. Alors Helmut Kohl commençait déjà à être affaibli, c'était évidemment la statue du commandeur en Allemagne et au sein de la CDU, mais il commençait à être affaibli. D'abord il s'était fait battre par Schröder, et puis il était pris dans un scandale, celui qu'on avait appelé les caisses noires de la CDU, un scandale financier. Donc, elle a vraiment senti ce moment de faiblesse comme les chiens quand ils viennent achever un animal blessé, mais très habilement et sans violence et avec beaucoup de courtoisie. Elle a écrit cette tribune qui montrait qu'il était temps de tourner la page d'Helmut Kohl. Au fond, elle se posait en sauveuse du parti, d'un parti qui risquait d'être entraîné dans sa chute à la suite des malversations et du chancelier qui avait été pris la main dans le sac.
Alors, beaucoup de courtoisie, mais quand même...
Beaucoup de courtoisie, mais beaucoup de fermeté et surtout le sens incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise Angela Merkel tout au long de sa vie, c'est de saisir le moment de l'histoire au moment où il se présente devant elle. Ça n'est pas quelqu'un qui anticipe, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de vision à long terme, mais là je dirais qu'elle est très mathématicienne et scientifique dans sa manière de faire, c'est-à-dire qu'elle regarde les données une fois qu'elles sont sur son bureau devant elle. Elle se dit bon, il y a ça, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce que je peux faire. Et là, elle l'a fait avec Helmut Kohl en se disant voilà, c'est mon moment, lui, c'est le sien est terminé, et elle a donné le petit coup de pouce qui l'a propulsée à la tête d'abord du parti, puis de l'Allemagne.
Pascal Thibault, elle est habile, elle est efficace, elle est prudente à l'extrême, mais toujours peu charismatique, sans grandes idées. Alors qu'est-ce qui explique sa popularité auprès des Allemands? Elle leur ressemble, elle les rassure?
Oui, je crois que ça joue sans doute un facteur, le fait que Angela Merkel rassure les Allemands, le fait que on le voit aussi dans le terme de Mutti, maman, qui est souvent employé pour la qualifier. Il y a aussi effectivement ce rôle, le fait que durant ces 16 années qu'elle aura passé au pouvoir, l'Allemagne a traversé pas mal de crises, crises économiques, financières, de la zone euro, la Grèce, l'arrivée de nombreux réfugiés et la pandémie pour terminer. Bref, des périodes quand même pas toujours faciles pour le pays, avec une chancelière qui finalement a tenu le gouvernail dans la tempête en faisant en sorte que le bateau Allemagne ne soit pas trop malmené. Et je pense que ça aussi, ça a contribué à rassurer les Allemands. On l'avait vu notamment dans, si je ne m'abuse, la campagne de 2013 où elle avait simplement dit au terme d'un débat « Vous me connaissez ». Donc en fait, le meilleur argument, c'était pas le programme, de toute façon assez secondaire dans un parti comme la CDU, mais c'était la chancelière, et on se rappelle aussi des affiches où on voyait ce geste caractéristique d'Angela Merkel avec les deux mains qui se rejoignent, qui symbolisait aussi finalement le côté rassurant de cette chancelière, et ce qui a, il faut le dire, assez bien marché, surtout en 2013 avec un score exceptionnel à l'époque de la CDU, au-delà de 40%.
Alors, Pascal Thibault, vous évoquez la façon d'Angela Merkel d'occuper ses mains. Pendant un moment, elle ne savait pas vraiment qu'en faire. Et puis après, elle a trouvé une astuce. On y voit, en tout cas, on peut y voir comme un petit cœur qu'elle est en train de former avec ses mains. Et c'est une position qu'elle adopte quasiment dans toutes les situations.
Oui, effectivement, c'est devenu très symbolique, ce qu'on appelle Raute en allemand, ce qui ressemble un peu à un losange, peut-être plus qu'un cœur. Mais ça, c'était peut-être le romantisme français qui parlait à l'instant. C'est vrai que c'est devenu un geste symbolique, quasiment iconique. Et ça explique, par exemple, comme je le disais, que sur une affiche énorme qui avait été mise en place près de la chancellerie en 2013 par la CDU, on ne voyait même pas le portrait, le visage d'Angela Merkel, mais on voyait uniquement quelqu'un tenant ses deux mains devant elle, ce qui suffisait pour bien sûr identifier la personne derrière ce symbole. Et encore une fois, ça résumait encore une fois l'argument électoral principal de la CDU. Et c'est vrai qu'Angela Merkel est restée avec quelques faiblesses, mais toujours à des niveaux de popularité qui ferait pâlir beaucoup de responsables français et d'autres à des niveaux relativement élevés, souvent plus haut que ceux de son parti. On l'a même vu lorsque la CDU ces derniers mois a commencé à plonger. Eh bien, on a vu quand même que la popularité d'Angela Merkel, même si elle a un petit peu été égratignée, elle reste toutefois autour de 70%, ce qui est effectivement, après ces années, relativement exceptionnel.
Alors, on a dit beaucoup de bien d'Angela Merkel, et pas uniquement Marion van der Tergem. Niklas Mantsch, vous avez 25 ans. Alors, quand on a 25 ans, qu'on est allemand, jeune allemand, quel regard porte-t-on sur Angela Merkel? On est si un peu admiratif ou on est plus nuancé?
Alors je pense que moi je suis plutôt nuancé. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai grandi avec Merkel, son élection c'était mon premier souvenir politique, mais quand on vit 16 ans avec le même chef d'État, ou dans ce cas-là la même chef d'État, il y a aussi des choses des politiques qui fâchent. Hein. Je me souviens surtout aussi un de mes premiers... Quand je commençais à me politiser, je pense à la Grèce en 2015, en 2011, je pense à la crise des réfugiés en 2015. Il y a pas mal de sujets qui ont fait débat aussi, aussi sa politique climatique qui n'est pas tout à fait à ce que ma génération estime à la hauteur de notre temps. Donc oui, je porte un regard un peu plus nuancé sur les années Merkel.
Nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Marion Vanneur, Ettingham, vous n'êtes pas la seule journaliste à vous être intéressée à Angela Merkel. Elle a suscité de nombreuses biographies, notamment en Allemagne, et l'hebdomadaire Die Zeit a réuni 5 d'entre eux et partagé leurs impressions.
Oui, l'hebdomadaire Die Zeit en a réuni 5. Certains l'ont rencontré, d'autres non. L'un d'entre eux a axé son ouvrage sur l'aspect religieux de son parcours, une autre sur le fait qu'elle soit physicienne de formation, mais toutes et tous, en revanche, s'accordent sur un point. À quelques mois de son départ du pouvoir, Angela Merkel reste une femme politique exceptionnelle, la meilleure sans doute d'Allemagne et d'Europe. Alors Daniel, cet entretien croisé, c'est une vraie petite mine d'or, on y apprend beaucoup de choses, anecdotiques parfois, comme le fait que la chancelière aime le Spritz, d'autres nous en disent beaucoup plus en revanche sur la personnalité d'Angela Merkel. Comme cette fois où elle a pris la parole lors d'une conférence de presse historique liée aux caisses noires de la CDU à la fin des années 90, c'est le président du parti Wolfgang Schäuble qui parlait et qui pédalait un peu dans la semoule. Je cite « Depuis le début de la conférence de presse, elle avait la main sur le micro », relate Evelyn Roll, présente ce jour-là. « C'est à ce moment que j'ai compris qu'elle voulait le pouvoir », ajoute l'autrice. Mais même après de nombreuses années à fouiller dans les archives, à interroger ses proches, à disséquer ses moindres décisions politiques, les 5 biographes n'ont pas pu tirer tous les sujets au clair. « C'est l'une de ses forces », à Merkel assure l'un d'entre eux. « Elle sait quand il vaut mieux se taire et c'est à cause de ça que certains ont pu dire qu'elle était faite de téflon. Parmi les questions qu'ils aimeraient bien lui poser aujourd'hui, comment se déroulaient les conversations avec Donald Trump et Vladimir Poutine? Son entourage reste discret à ce sujet. Ou encore, faut-il toujours parler et tenter de comprendre les jeunes d'extrême droite comme elle le faisait elle-même dans les années 1990? Pour ce qui concerne l'après-politique, les paris sont ouverts. Certains misent sur un retrait pur et simple de la vie publique, direction la campagne et la dacha. D'autres rappellent le souhait émis par la chancelière d'animer un talk-show politique. Andreas Ressing, par ailleurs rédacteur en chef d'une revue catholique, lui, n'y croit pas une seule seconde, ça ne ressemble pas du tout à l'Angela qu'il connaît. Et de lancer à ses 4 confrères réunis par Die Zeit, si on la retrouve dans un talk show au bout d'un an, je suis prêt à vous offrir une tournée de Spritz.
Bon, on verra tout ça un peu plus tard. Merci Sacha Mitchell, Courrier International, lesdocourrierinternational.com, le site. Peut-être dire un petit mot, elle vient de l'Est, elle a rencontré tout évidemment les grands chefs d'État en 16 ans, elle a rencontré évidemment les Bush, Donald Trump, Obama, et puis l'indéboulonnable Vladimir Poutine, qu'elle connaît bien et qu'elle est tout à fait apte à bien comprendre parce qu'elle vient de l'Est, elle parle parfaitement le russe, et puis Vladimir Poutine, lui, parle très très bien l'allemand, ce qui fait qu'il paraît que lorsqu'ils se rencontrent, ils se sont vus très longuement, de nombreuses fois, elle lui parle en russe, il lui répond en allemand.
C'est tout à fait exact. C'est une histoire fascinante, celle de Poutine et de Merkel, une sorte d'histoire parallèle, dans la mesure où lui était donc officier du KGB et il a été en poste à Dresde en Allemagne de l'Est. Donc sans le savoir, ils se connaissaient, dans la mesure où lui était du côté de l'occupant, elle de l'occupé. Et ils sont arrivés à peu près en même temps au pouvoir, elle en 2005 et Poutine un petit peu avant. Donc c'est drôle, ils ont la même longévité au pouvoir. Ce sont un peu les doyens du continent européen, avec Erdogan qui en fait partie, sachant que Poutine, évidemment, s'y est maintenu par des moyens un peu moins démocratiques qu'Angela Merkel. Mais ils ont cette longévité en commun et ils savent très bien de quel monde il vient. Elle sait parfaitement comment il fonctionne, le KGB, la Stasi, les méthodes, elle les connaît. Et je raconte dans le livre cette anecdote incroyable où, donc, lors de leur première rencontre en tant que chef d'État et de gouvernement, l'entourage d'Angela Merkel avait fait savoir à Vladimir Poutine qu'il valait mieux qu'il l'écarte de la pièce où il se trouverait. Le chien de Vladimir Poutine, qui est un brave labrador, hein, c'est pas du tout un Doberman impressionnant, mais malgré tout, elle a peur des chiens parce qu'elle s'est fait mordre. Elle en a gardé une peur panique des chiens, même des braves labradors. Et donc, Poutine enregistre et il place, lors de leur première rencontre, le chien n'est pas là, mais en revanche, il a placé sur le canapé un chien en peluche. faut vraiment avoir de l'imagination un peu perverse pour penser à une mise en scène pareille. Et la deuxième rencontre, il fait semblant d'avoir oublié. Le fameux labrador, dont j'ai oublié le nom, se faufile entre les jambes de la chancelière, vient lui mettre poser son museau sur ses genoux et elle est terrorisée. Et il y a cette photo que j'ai mise dans le livre, vraiment hilarante, où on voit le visage totalement crispé de Merkel qui ne sait pas quoi faire de ce chien. Et Poutine qui est assis, affalé dans son fauteuil et qui regarde la scène avec une jouissance sans égale.
Yann Saltoff, on va parler un peu d'Angela Merkel, l'européenne en tout cas, qui a pris beaucoup de décisions, ou qui n'en a pas pris, ou pas très rapidement, dans toutes les crises qu'a connues l'Europe à partir de 2005. Alors, notamment dans la gestion de la crise financière 2008-2010, puis de la crise des dettes et de la crise grecque 2010-2015, pour situer à peu près, elle n'a guère été visionnaire. Sa lenteur à prendre des décisions a coûté très cher à la Grèce, mais aussi à l'Europe. Et puis elle a, au passage, un peu énervé Sarkozy, qui a toujours un peu de mal à comprendre qu'on ne réagisse pas au quart de tour. Voilà, toujours avec cette vision très très allemande qui est de l'austérité. Elle a pris des décisions, on a dit souvent trop peu et trop tard.
Mais je crois, justement, ça c'est un point très important, parce que là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de dommages. Angela Merkel, il ne faut pas oublier que son bilan est plus que mitigé. Après 16 ans. Et ce que vous avez dit là, justement, c'est un point très très important. Parce qu'elle a découvert l'Europe et l'importance de l'Europe assez tard. Justement, la crise financière de 2008, c'était elle qui a pris la décision que chacun pour soi. Et ça, c'était favorable pour l'Allemagne. Et elle a aussi imposé une politique d'austérité à toute l'Europe. Et elle a absolument voulu garder cette politique d'austérité. Il fallait une pandémie catastrophique. Et en plus, aussi, un jugement du Cour constitutionnel à Karlsruhe et beaucoup de pression de tous les côtés que finalement elle change cette politique. Et c'était une politique catastrophique avec des conséquences catastrophiques pour l'Europe. Et je pourrais aussi prendre d'autres. Elle a compris l'Europe qu'avec la crise, et ça, justement, c'était Poutine qui est une des raisons aussi. Elle a vraiment compris quand il y avait déjà les conflits dans la région du Donbass, en Ukraine, et ensuite l'occupation de la Crimée par la Russie, c'est là où elle a vraiment compris l'importance de l'Europe. Et c'est depuis qu'elle a quand même aussi s'est engagée, mais pas par exemple dans les questions financières, elle n'était pas du tout prête pour qu'il y ait une possibilité de s'endetter ensemble au niveau européen et de réagir ensemble aux crises. Là, justement, il fallait vraiment la pandémie. Et d'ailleurs, juste pour aussi faire là une petite remarque là-dessus, parce que c'était dit avant, bon, vu de l'Allemagne, j'ai vraiment pas l'impression qu'elle est en train de devenir une icône pop. Elle est très populaire, c'est vrai, très très populaire, mais il me semble qu'elle est plutôt comme une sorte de vieille meuble, tout le monde le connaît, tout le monde s'est habitué, depuis tout le monde fait confiance et on peut mettre des choses très lourdes là-dessus et c'est fiable et tout ça, c'est plutôt ça comme image, mais pas qu'elle, on la trouve pas super cool ou extraordinaire ou excitant ou quelque chose, je vais dire des choses qui normalement sont des éléments d'une icône pop, ça je vois vraiment pas. Et justement, l'Europe, là, c'était un grand manque que son style, c'est, ça c'était déjà dit aussi, son style, c'est pas d'avoir des visions, vraiment. Elle, c'est quelqu'un qui a toujours, elle réagit et elle fait plutôt l'administration, la gestion et la réaction aux crises ou là où il y a vraiment la pression. C'est ça qu'elle a fait. Par exemple, là, après 16 ans, c'est intéressant, ce ne serait pas possible de la lier avec une seule grande réforme importante en Allemagne. Pas une seule. Dites-moi une seule réforme qui pourrait être liée avec elle dans 16 ans. Ça, c'est quand même quelque chose. Donc, oui, donc il fallait toujours beaucoup de pression extérieure avant qu'elle réagisse. Et aussi, je dois quand même dire quelque chose. Pardon de le dire, mais ça fait tellement du bien qu'elle est plus en jeu pour ses campagnes. Et là, c'est pour la première fois depuis 16 ans qu'il y a une vraie campagne électorale en Allemagne, un vrai débat ouvert. Parce que elle, là, elle était très fort, chapeau, elle était très fort avec sa stratégie de la démobilisation asymétrique. Et mais c'était une stratégie qu'il n'y a pas un vrai conflit, pas des vrais débats autour d'une campagne électorale. Et ça fait tellement du bien que pour la première fois depuis 16 ans, il y a ça maintenant en Allemagne.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, nous sommes en train de dire bye bye à Angela qui va quitter le pouvoir après 16 ans en Allemagne. Ce sera au mois de septembre prochain. Nous sommes avec Marion van Rettinghem, journaliste. Son dernier livre, C'était Merkel, est paru aux éditions des Arènes. Avec Jens Althoff, directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll. Avec Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne. Et avec Niklas Munch, jeune étudiant en journalisme. Alors, Pascal Thibault, en 16 ans, elle a pris trois décisions majeures. D'abord, le renoncement au nucléaire au lendemain de la catastrophe de Fukushima. Ensuite, l'accueil d'un million de réfugiés en 2015 avec le fameux Wir schaffen das, on va y revenir. Et puis, plus récemment, elle a soutenu l'idée d'un emprunt commun de 750 milliards d'euros avec Emmanuel Macron au nom de la Commission européenne pour faire suite aux conséquences économiques de la pandémie. Alors, on a beaucoup parlé d'Angela Merkel, on va l'entendre en quelques instants, de sa fameuse voix monocorde, Angela Merkel avec le fameux Wir schaffen das.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Alors, Pascal Thibault, wir schaffen das, nous allons y arriver, hein, c'est bien ça.
Tout à fait. Oui, elle évoquait le fait que l'Allemagne avait dans son passé beaucoup atteint, à commencer par exemple par le mirage économique d'après-guerre, et donc il n'y avait pas de raison. Là, elle parle fin août, début septembre 2015, il n'y avait pas de raison qu'il ne soit pas possible de surmonter ou de prendre en charge des centaines de milliers de réfugiés.
Alors, on a dit, voilà, Merkel a sauvé l'Europe, l'honneur de l'Europe. Est-ce que c'est perçu comme ça en Allemagne ?
Tout dépend évidemment à qui vous vous adressez, c'est évident. Donc, pour ceux qui sont des supporters ou les personnes favorables à une immigration assez généreuse, bien entendu, ils applaudissent. Mais vous avez d'abord eu de fortes résistances au sein de son propre parti, où beaucoup ont estimé que c'était une décision irresponsable. Il y a aussi beaucoup de critiques dans un pays qui est très juridique sur le fait que on était dépassé, on ne savait plus qui arrivait, les identités n'étaient plus contrôlées. Il y a aussi eu, il faut le dire, le fait que cette politique a aussi contribué à redonner un sang neuf au parti alternatif pour l'Allemagne créé 2 ans plus tôt, en 2013, et qui s'essoufflait un petit peu.
Un parti
d'extrême droite, parce que la crise de l'euro, qui avait été son premier thème de campagne, eh bien, faisait en 2015 lentement moins parler d'elle. Ça a été extrêmement exploité par ce parti, avec des succès électoraux importants, à commencer bien entendu par l'entrée historique dans l'Allemagne d'après-guerre au Parlement national, au Bundestag en 2017. Donc Angela Merkel est aussi celle qui, quelque part, aura permis ce succès de l'extrême droite et l'apparition d'un parti d'extrême droite important au niveau national, possiblement sur la durée, parce qu'il y a de bonnes chances qu'il soit réélu à nouveau au Bundestag. Donc l'héritage de cette décision reste toujours présent, extrêmement présent dans la vie politique allemande, surtout bien évidemment parmi ceux qui la critiquent et qui estiment qu'elle a failli. Et ça se retrouve encore de façon sous-jacente. Et si on gratte un peu, on le voit lors de l'élection qui s'est tenue aujourd'hui en Saxe-Anhalt. Eh bien, au-delà de la pandémie, c'est un sujet qui, bien que aujourd'hui l'immigration, l'arrivée de nouveaux migrants soit relativement tarie en Allemagne, qui reste encore important dans les motivations des électeurs qui soutiennent le parti d'extrême droite.
Marion van Rettinghem, des trois décisions que je viens d'évoquer, là, le renoncement nucléaire, l'accueil d'un million de réfugiés en 2015, et puis l'emprunt commun de 750 milliards, initiative qu'elle a prise avec Emmanuel Macron, deux de ces trois décisions ont été prises pratiquement du jour au lendemain, sans aucune concertation, notamment avec les Français.
Elles ont toutes été prises du jour au lendemain. Enfin non, pas le plan de relance, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est tout à fait juste comme ce qui a été dit. Elle n'a jamais eu à son actif de réforme d'envergure. Elle a totalement surfé. Elle s'est contentée de surfer sur les réformes de Gerhard Schröder qui avaient été entreprises avant elle. Et elle a accompagné un mouvement. Elle s'est contentée, si je puis dire, c'est déjà pas mal. Mais enfin, elle a installé la prospérité allemande par ricochet la prospérité européenne, parce qu'il faut pas oublier quand même que l'Allemagne est un moteur pour l'ensemble de l'Europe, donc on en a tous bénéficié. Mais je pense que la crédibilité européenne doit beaucoup à Angela Merkel, malgré ses fautes et ses erreurs, comme cette grosse erreur quand même, pour ne pas dire une faute, qu'elle a commise pendant la crise grecque, où elle n'a rien compris au départ. La crise financière et la crise grecque, elle a été vraiment très en deçà de ce qu'il fallait. Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait vraiment saisi davantage qu'elle les enjeux et l'ampleur de la crise mondiale qui se dessinait, elle restait à un côté très, très allemand, très, très étriqué. Elle se disait, non, mais moi, les banques de Mélender, ça tient, etc. Donc, elle ne voyait pas les enjeux.
Elle a eu très souvent une vision allemande des choses et une vision de l'économie des industriels allemands.
Oui, et ce qui continue d'ailleurs à peser, parce que autant je pense que c'est quelqu'un sur la scène internationale, c'est l'une de celles qui affronte Vladimir Poutine ou qui a affronté aussi Donald Trump ou même les Chinois de manière personnelle avec le plus de force et en rappelant les valeurs de façon assez vocale, bruyante. Autant sur la politique vis-à-vis de ces pays-là, à mon avis, ça fait partie du négatif de son bilan. C'est-à-dire qu'elle est très, très complaisante et très souple avec la Russie pour favoriser les intérêts industriels allemands. Le projet Nord Stream que les Verts s'engagent à vouloir arrêter. Alors, totalement.
C'est un pipeline, un gazoduc qui permet d'acheminer du gaz russe jusqu'en Allemagne en contournant l'Ukraine et la Pologne.
C'est ça. Et qui est un sujet de controverse et qui, évidemment, lie l'Allemagne à la Russie de Poutine. Ça, Merkel, elle a toujours fait le dos rond. Elle s'est tout à fait employée à ne jamais s'opposer à ce projet et c'est ce qui est contesté maintenant par le SPD et par les Verts. Donc l'avenir de ce projet Nord Stream dépendra beaucoup de la prochaine coalition. Avec les Chinois aussi, elle est dans un embarras, c'est très compliqué.
Est un peu la VRP de BMW et de Mercedes.
Exactement, mais c'est compliqué quand même pour l'Allemagne, est prise dans un conflit d'intérêts entre l'éthique et la valeur politique et la morale politique et puis les intérêts industriels qui font que cette première puissance est-ce qu'elle est. Et Angela Merkel a toujours jonglé un peu entre les deux de manière compliquée et en favorisant plutôt les intérêts industriels allemands. Après, il y a le discours à la française que je trouve toujours erroné et d'assez mauvaise foi qui dit l'Allemagne nous domine ou l'Allemagne a la mainmise sur l'Europe et sur la France. D'abord, c'est plutôt de la faute des Français s'ils ne sont pas capables de s'aligner. C'est pas de la faute des Français. C'est pas de la faute des Allemands si les Français préfèrent acheter des BMW, des Porsche et des Audi, même dans les dealers de banlieue, ils préfèrent acheter ces voitures-là que des Renault ou des Peugeot. Donc c'est à nous de se poser la question, alors que ce sont des voitures plus chères que les nôtres. Donc je trouve qu'il y a toujours une façon française assez bizarre de vouloir se dédouaner de nos erreurs en accusant soit Bruxelles, soit les Allemands. Mais c'est vrai que Angela Merkel a toujours pris parti pour l'industrie. Elle a eu donc des virages sans avoir fait de réformes d'envergure. Elle a eu pendant trois fois que vous avez souligné des moments de réveil, de surprise politique. Alors celle après Fukushima était plus de l'ordre du calcul politique parce que l'une des qualités de dirigeante, certains y verront un défaut d'Angela Merkel, c'est de comprendre et de sentir incroyablement l'opinion publique. Donc on peut la taxer d'opportunisme, on peut se dire aussi que c'est de l'intuition et que justement elle a toujours conduit son pays sans forcer l'opinion allemande mais en l'accompagnant. Et Fukushima, il y avait un air du temps écologiste, les Verts étaient en train de gagner du terrain. On peut se dire que sa décision très à contre-courant d'arrêter le nucléaire était le fruit d'un calcul politique. C'est beaucoup moins vrai pour la crise des migrants, ou pour moi, comme dit rappelait très justement Pascal Thibault, ça lui a coûté extrêmement cher politiquement, et à elle et à l'Allemagne entière, puisque ça a favorisé l'émergence de ce parti d'extrême droite, la réémergence d'un parti d'extrême droite au Parlement allemand, la première fois depuis la guerre. Et donc c'est quand même sacrément traumatisant, et je pense que ça a secoué énormément les Allemands de voir cette AfD qui arrivait au Bundestag. Autant pour moi, comme vous disiez, je pense que j'ai mis la formule aussi dans le livre, elle a vraiment sauvé l'honneur de l'Europe. C'est pas faute d'avoir appelé à la solidarité européenne qu'elle a dû agir seule. Elle a agi seule face à un moment de détresse humanitaire massif. Comme elle l'a dit elle-même, elle a dit « si on ne peut pas réagir avec humanité devant une telle détresse, ce n'est plus mon pays ». Et je pense qu'elle a, là, c'est vraiment la femme de l'Est qui s'est réveillée, celle qui est née du mauvais côté. Elle sait ce que c'est que d'avoir vécu du mauvais côté d'un mur. Elle sait ce que c'est qu'elle a les valeurs protestantes aussi qui fait qu'on tend la main à ces chrétiens de tendre la main. Et pour moi, elle a fait ce que tout le monde aurait dû faire, à part la Suède et l'Autriche, qui ont été coopérantes et qui ont aussi mis la main à la pâte. La France s'est comportée de manière extraordinairement lâche. Et ce n'est pas faute de la part d'Angela Merkel d'avoir demandé cette solidarité. Donc là, pour moi, je trouve qu'elle a eu... On peut se demander si elle est bonne ou mauvaise européenne. Elle ne l'a pas été au moment de la Grèce, etc. Mais pour moi, là, elle a marqué l'histoire en étant... en se comportant d'une manière humaine comme tous les Européens auraient dû le faire. Et elle incarne l'Europe pour ce moment-là.
Pascal Thibault, elle a connu, Angela Merkel, quatre présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Elle s'est adaptée, hein, parce qu'ils ont des styles très très différents les uns des autres. Est-ce que vous diriez qu'elle a un petit préféré ou pas ?
Difficile à dire parce que je ne peux pas parler à sa place. Je dirais que d'un point de vue, il faut distinguer le plan politique et le plan humain. Je pense que c'était certainement pas très facile avec Nicolas Sarkozy, l'impulsif qui faisait des propositions en permanence auxquelles il fallait réagir si possible vite, ce qui n'est pas le fort d'Angela Merkel. D'un point de vue humain, je la vois plus sans doute sur une longueur d'onde plus proche avec par exemple un François Hollande sans doute en ce qui concerne le style. En ce qui concerne les idées politiques, c'est autre chose. Mais on a évoqué les différentes perceptions de la crise de la zone euro et de la crise grecque avec Nicolas Sarkozy. On a vu aussi qu'avec Emmanuel Macron, si au départ, lors de sa première arrivée à la chancellerie, elle a cité un poète allemand, on a vu qu'ensuite, il y a eu aussi un certain nombre de tensions et de divergences franco-allemandes, notamment sur un certain nombre de dossiers internationaux, mais pas seulement, et que finalement, c'est seulement sur le tard, avec la présentation de ce plan il y a environ un an pour redonner du tonus à l'Union européenne, que Merkel s'est un peu refait une virginité européenne, entre guillemets, après quand même, durant presque 15 ans, voilà, n'avoir rien proposé.
Il était presque dans.
Exactement.
Pascal Thibault vient de le dire, Angela Merkel est devenue une européenne un peu sur le tard, hein, heureusement qu'il y a eu un quatrième mandat, sinon on s'en serait peut-être pas rendu compte, au détour d'une pandémie. Car elle a fini par comprendre, en tout cas elle a exprimé, que l'Allemagne ne pouvait être forte sans une Europe puissante, forte, et donc aussi sans une France forte.
Elle est devenue européenne dans l'état, justement aux réactions des crises. Aux réactions des crises. Bah, la crise qui était très importante, c'était justement qu'on ait la compris. Et là, je dois dire, par exemple, ça, c'est quelque chose où on pourrait faire plus dommage à elle aussi, à Hollande d'ailleurs, parce que la crise autour de la région de Donbass, où est quand même la Russie était en train de faire encore d'ailleurs la guerre à l'Ukraine, et aurait pu vraiment déstabiliser complètement l'Ukraine, une guerre civile et tout ça. Elle a vraiment bien géré cette situation dans le format de Normandie avec Hollande et le processus de Minsk. Elle a vraiment bien géré cette situation. Et il me semble que depuis, elle a vraiment compris qu'il faut justement aussi, face à la situation avec la Russie, il faut avoir une Europe et il faut renforcer l'Europe. Et les deux moments clés pour ça, c'était Trump et l'élection de Trump et le développement aux États-Unis. Mais ça, c'est exactement la même ligne. Vous voyez, c'est pas qu'elle est, maintenant je crois, elle est quand même une européenne par conviction, mais elle était aussi poussée par des événements extérieurs, ça venait pas d'elle ou elle a jamais fait un discours qui a fait Macron à la Sorbonne, mais Joschka Fischer avait fait des discours sur l'Europe, il n'y a rien. Ces discours sur l'Europe au Parlement, c'était dit, c'est pas un point fort d'elle de faire des grands discours, mais vraiment, ces discours sur l'Europe, là, on doit dire, ça, c'est vraiment, c'est très maigre, c'est très décevant. Mais dans les actes, maintenant, c'est vrai, elle a compris. Mais là aussi, c'était dit, je crois que c'est un point très important. Elle a toujours fait la politique du BDI, du MEDEF allemand. Et c'était justement ça aussi, avec la crise de pandémie, tout ça. Là, il y avait les syndicats, là, il y avait le BDI, le MEDEF allemand. Tout le monde a dit, si maintenant, il n'y a pas une réaction européenne, l'euro et toute la situation économique avec va s'écrouler. Donc là aussi, vous avez une situation d'une forte pression de tous les côtés avant qu'elle bouge. Donc pour elle qu'elle bouge, il faut toujours avoir vraiment de la pression d'extérieur, des événements d'extérieur qui la poussent. Ça, il me semble, c'est vraiment une fille rouge dans tout ce temps-là, tous les années avec Angela Merkel.
Pascal Thibault, d'un mot. Alors paradoxalement, Angela Merkel, on l'a dit, reste très populaire après ses années au pouvoir. Son parti, par contre, arrive très très affaibli pour ces élections, avec une poussée des Verts. On peut imaginer une coalition verte CDU à partir du mois de septembre. C'est évidemment un petit paradoxe de la fin de pouvoir d'Angela Merkel. Vraiment d'un mot, Pascal Thibault, s'il vous plaît.
Bah, c'est vrai qu'effectivement, la dernière période n'a pas été très simple pour la CDU. On avait aussi un phénomène d'émancipation. Angela Merkel a quitté la direction du parti. Le patron du groupe parlementaire, Chrétien Démocrate, une main droite d'Angela Merkel a été battue. Il y a eu une première successeur, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a dû se retirer. Il y a eu ensuite une nouvelle élection, avec encore une fois un choix très ric-rac au début de l'année. Un parti qui a reculé dans les sondages, ou plutôt qui a perdu le bonus Covid dont il avait bénéficié pendant quelques mois, mais qui reprend des couleurs, il faut le dire aussi, ces derniers jours et ces dernières semaines. Un parti qui est un peu quand même au bout du rouleau, il faut aussi le dire.
Avec un leader, Henri Lachette, très très peu charismatique lui aussi, hein.
Oui, mais on parlait tout à l'heure d'Angela Merkel qu'on avait longtemps sous-estimée. On pourrait un peu aussi dire la même chose pour Armin Laschet, donc restons prudents. Et on peut aussi devenir chancelier une fois qu'on, enfin avoir la carrière de chancelier une fois qu'on est élu. Donc je crois qu'il ne faut pas aller trop loin sur ces critères assez superficiels. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'après 16 ans, on a une coquille un peu vide et on ne sait pas qu'est-ce que veut proposer ce parti pour la prochaine décennie jusqu'en 2030. Et là, on a un peu le problème justement qu'Angela Merkel ayant quitté la direction du parti relativement tôt. C'était très difficile pour la personne qui le remplaçait, de développer de nouvelles propositions, peut-être pas un contre-projet, mais un nouveau projet pour l'après Merkel. Et là, on ne sait pas trop ce que ce parti a à proposer.
Allez, Niklas Monge, d'un mot, est-ce que vous avez 25 ans, est-ce que vous allez regretter Angela Merkel ?
Non, pas tout à fait, parce que Merkel était un personnage omniprésent. Rien que le losange, comme l'a dit Pascal Thibault, ce qui est un geste tout à fait emblématique. Pourtant, elle-même, elle est restée très réservée, c'est-à-dire qu'elle donne très peu d'interviews, elle est très peu présente quand même. Donc non, je pense que je ne vais pas regretter. J'ai plutôt, je suis curieux de voir ce qui nous réserve l'avenir.
Bon, alors on verra, hein, les élections c'est en septembre. Alors on sait qu'une fois que les élections se sont déroulées en Allemagne, il faut beaucoup de temps, beaucoup de mois pour qu'on se mette d'accord pour la coalition et puis pour le programme de gouvernement. Ça peut prendre des mois. On arrive vraiment au terme de cette émission, Marion van Rentergem. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, un peu l'amoureuse transite d'Angela Merkel, qu'est-ce que vous allez retenir de ces 16 années? La gestionnaire prudente et habile des crises, ou au contraire, l'Angela Merkel qui accueille le million de réfugiés, qui sauve l'honneur de l'Europe, la grande européenne sur le tard?
Pour moi, l'image de l'européenne qui a tendu la main aux réfugiés est extrêmement importante. Mais surtout, au-delà de ce qu'elle a fait ou pas fait, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas fait grand-chose, elle a plutôt accompagné, je pense que Angela Merkel va me manquer en tant qu'incarnation européenne. Ça ne veut pas dire qu'elle a été une grande européenne. Elle ne vient pas de là. Elle vient d'une Europe, d'ailleurs, qui était exclue du reste de l'Europe. Elle n'est pas d'une Europe rhénane comme ses prédécesseurs. Elle est aussi arrivée au pouvoir dans une Europe déjà élargie, donc dans une Europe qui était davantage un marché qu'une union politique. Elle n'a pas aidé à renforcer cette union politique, sauf sur le tard, à la faveur de la crise du coronavirus et par cette révolution vraiment qu'elle a opérée avec le plan de relance européen et un début de mutualisation des dettes. C'est vrai que les tabous allemands sont tombés avec elle, malgré tout. Je pense qu'elle représente, elle incarne quelque chose de l'Europe très fort, de l'Europe, d'abord cette Europe Est-Ouest, elle l'incarne profondément. Et elle incarne aussi par son style, c'est ce style qui va, moi, me manquer, un style de sobriété, de modestie, d'attention au langage. Ça n'est pas une oratrice, elle ne fait pas de discours, elle ne promet pas. Et je pense qu'en cela, elle est l'incarnation de l'antipopulisme dans un monde extraordinairement turbulent et inquiétant et tenté par les leaders charismatiques qui sont justement en général des populistes, des vendeurs de rêves, des marchands de mensonges, etc. On en voit un peu partout. C'est cela qui pullule. Et pour moi, elle incarnait la résistance à ça. Et là, c'est vrai que il n'y a pas de danger en Allemagne parce que les trois candidats qui se disputent la chancellerie aujourd'hui entre le SPD, les Verts et la CDU sont tous des grands démocrates pro-européens. Donc je n'ai pas d'inquiétude en Allemagne. Oui. J'ai plus d'inquiétude en France et pour le reste de l'Europe. Et pour moi, elle était un pilier et c'est ce pilier qui s'en va.
Merci, merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Je rappelle le titre de votre livre, Marion von Trentergem, c'était Merkel, aux éditions Les Arènes, réalisation Jérémy Boucher avec Sacha Mitchell de Courrier International et la complicité de Kevin Bailly. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités, pour écouter ce Carrefour de l'Europe, RFI.fr, rubrique podcast, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de Carrefour de l'Europe via votre plateforme préférée, et par exemple Google, Apple ou Deezer. On reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Esquel, où que vous soyez, à Berlin, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel. Géopolitique, le débat.